Généralement, c'est un rite de passage, parce qu'on paraît devant ses pères.
L'efficacité proprement magique du rituel, la leçon inaugurale.
Il y a là une tradition qui remonte au XVIe siècle.
Moi, je me souviens de la leçon inaugurale de Raymond Aron. Bah, il était vert de peur.
Une mode insensée s'est emparée du bergsonisme et on faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma.
Les leçons inaugurales du Collège de France, coordination, Meryl Moneghetti.
S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler, je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche.
Lévi-Strauss, le jour de sa leçon inaugurale, debout dans le fond contre la porte de droite, il y avait Alain Cuny, vous voyez, l'acteur Alain Cuny. Et je me suis dit, c'est quand même extraordinaire, il n'y a pas que nous.
Vous voici conviés comme chaque jour de cet été au Collège de France avec France Culture pour une nouvelle leçon inaugurale. Cet état des lieux d'une recherche en cours est aussi le reflet des mutations de notre monde. Comment change-t-on nos modes de pensée ? Aujourd'hui, nous explorons une nouvelle théorie schumpeterienne de la croissance reposant sur l'innovation et la destruction créatrice en compagnie de Philippe Aguillon dans le cadre de la chaire d'économie des institutions de l'innovation et de la croissance. Cet économiste qui mêle dans ses travaux modélisation et analyse empirique a enseigné au MIT, à Oxford et à l'université de Harvard. Au micro de Christine Goémé, il raconte quand il était jeune étudiant en mathématiques son intérêt pour la chose publique, pour la politique qui l'a conduit à l'économie. Il voulait comprendre la validité des arguments, trouver des outils, savoir si les programmes proposés étaient réalistes. Ses recherches sur le développement, le lien croissance-inégalité partent de ce questionnement à l'heure de la mondialisation. Plus récemment, il explique « On est dans un monde de croissance par l'innovation. Il faut donc un marché du travail qui permette aux entreprises de se réorganiser et de fermer une activité pour en ouvrir une autre. Tout le problème est de favoriser l'innovation sans pénaliser les employés. L'éducation et la formation professionnelle doivent jouer leur rôle de levier et assurer la flexi-sécurité. La mobilité doit devenir qualifiante, excitante et non stressante. » Philippe Aguillon introduit la frontière technologique. Plus un pays se développe, plus c'est l'innovation à la frontière qui devient le moteur de la croissance. Imaginez qu'un jour, explique-t-il, on fasse entrer un nouvel élève brillant dans une classe. Comment les élèves vont-ils réagir à cet accroissement de la concurrence ? L'arrivée de ce nouvel élément brillant va inciter les meilleurs élèves de la classe à travailler plus dur pour rester les meilleurs, tandis que cela va décourager les moins bons élèves. Les travaux de l'économiste abordent les énigmes de la croissance. Il en donne quelques exemples révélateurs. La notion d'expérience est fondamentale. Pourquoi l'Argentine décroche-t-elle des États-Unis vers 1938 ? Selon Philippe Aguillon, ce pays n'a pas su faire évoluer ses institutions pour devenir une économie innovante. L'économiste qui a les oreilles des politiques rappelle que ses idées appartiennent à tout le monde et que l'on a moins peur de ce que l'on comprend mieux. Il demande, faut-il craindre, comme Tocqueville, que les hommes n'arrivent à ce point de regarder toute théorie nouvelle comme un péril, toute innovation comme un trouble fâcheux, et qu'ils refusent entièrement de se mouvoir, de peur qu'on ne les entraîne. Et c'est sans peur que nous gagnons le grand amphithéâtre du Collège de France le 1er octobre 2015 pour la leçon inaugurale de Philippe Aguillon, « Repenser la croissance économique ».
Pourquoi une nouvelle théorie de la croissance ? Bien, tout simplement parce que les théories existantes, quand j'étais étudiant, nous apparaissaient insatisfaisantes, à la fois d'un point de vue théorique et d'un point de vue empirique. D'un point de vue théorique d'abord, quand je me suis mis à travailler sur le sujet, la théorie dominante était ce qu'on appelle le modèle de croissance néoclassique, celui d'une croissance basée sur l'accumulation de capital. La version la plus élégante de ce modèle fut développée en 1956, c'est l'année de ma naissance, donc une année très importante pour la croissance économique, plaisante, par Robert Solo, qui fut récompensé d'ailleurs pour cet article par son prix Nobel en 1987. Je ne vais pas vous ennuyer ici avec les détails du modèle, mais en deux mots, le modèle décrit une économie où la production se fait avec du capital et où c'est la croissance du stock de capital qui fait croître la production, le produit intérieur brut. D'où provient la croissance du capital ? De l'épargne des ménages. Et l'épargne des ménages, c'est une partie de la production. Une partie de la production, une partie est consommée et le reste est épargné. Et c'est cette épargne qui fait que le capital s'accumule. D'accord ? Donc on se dit, dans une économie comme ça, tout va bien. Davantage de capital financé par l'épargne produit davantage de PIB, ce qui se traduit par davantage d'épargne et donc davantage de capital pour produire davantage de PIB, etc. Et on se dit, c'est formidable. D'accord ? Autrement dit, voilà une économie qui semble générer une croissance économique durable, même sans progrès technique, sans innovation, sous le simple effet de l'accumulation de capital. Le rêve soviétique, d'une certaine façon. Malheureusement, là où le bât blesse, et justement l'Union soviétique en a fait l'expérience, c'est qu'il y a des rendements décroissants à ne produire qu'avec du capital. Car plus le stock de capital, pensez à des machines, est élevé, moins on augmente le PIB en rajoutant une unité de capital, en rajoutant une machine. Comme l'explique très clairement Robert Solow dans son article, pour générer une croissance soutenue, ça suffit pas d'avoir l'accumulation du capital. Il faut le progrès technique qui permet d'améliorer non pas seulement la quantité de machines, mais la qualité des machines. Et seulement le problème, c'est que Solow ne dit rien sur l'origine du progrès technique, en particulier sur ce qui, dans l'économie, stimule ou freine l'innovation. Et ça, c'est un très beau modèle, mais qui n'explique en fait qu'il n'y a pas de croissance en progrès technique, mais je ne peux pas vous expliquer d'où vient le progrès technique. D'un point de vue empirique, donc ça c'est l'insatisfaction du point de vue théorique, et du point de vue empirique, le modèle de croissance néoclassique ne permet pas d'expliquer donc la croissance de long terme, puisque je ne peux pas expliquer la croissance, le progrès technique, je ne peux pas expliquer pourquoi on voit qu'on observe que les pays ont eu de la croissance elle n'est pas tombée à zéro dans les pays développés. Et elle permet encore moins de comprendre pourquoi certains pays croissent plus vite que d'autres, pourquoi certains pays émergents ou moins développés convergent vers les niveaux de PIB par tête, c'est-à-dire les niveaux de vie des pays développés, et d'autres ne commencent même pas à converger, ou d'autres comme l'Argentine commencent à converger, puis vers les années 30, ils s'arrêtent quoi de converger. J'y reviens sur le cas argentin. Ils s'arrêtent à mi-chemin. Bon. C'est cette double insuffisance théorique et empirique qui a motivé notre tentative d'élaborer un cadre d'analyse radicalement nouveau. Et c'est ainsi qu'avec Peter Howitt, nous avons produit notre premier modèle de croissance en 1987, schumpeterien parce qu'inspiré par trois idées émises par l'économiste autrichien Schumpeter. Donc, première idée, la croissance de long terme résulte de l'innovation. Donc ça, en fait, c'est continuer Solow. Ben, en fait, lui avait cette idée avant le modèle de Solow. Il dit, voilà, à long terme, c'est l'innovation qui vous donne la croissance. D'accord ? Une idée très importante. Deuxième idée, l'innovation ne tombe pas du ciel, elle résulte de décisions d'investissement, notamment en R&D, mais l'investissement dans les qualifications, l'investissement dans les organisations, de la part d'entrepreneurs qui eux-mêmes répondent aux incitations positives ou négatives qui résultent des institutions aux politiques publiques. C'est très important, cette phrase n'a l'air de rien du tout, mais elle permet d'introduire un nouveau domaine qui est celui des politiques et des institutions de la croissance. Donc ça, c'est déjà tout un domaine énorme, une énorme boîte noire quelque part pour nous, qui est celui des politiques de la croissance. Et puis vient la troisième idée, qui est celle de la destruction créatrice, c'est-à-dire que les nouvelles innovations rendent les technologies ou les produits existants obsolètes. Le nouveau remplace l'ancien. Et donc, en fait, si vous voulez, l'innovation est un processus conflictuel. La croissance par l'innovation, c'est les nouveaux qui remplacent l'ancien. Mais évidemment, les anciens, ils vont se bagarrer pour rester et empêcher les nouveaux d'arriver. Donc il y a l'économie politique de la croissance, voyez. Et tout le problème et que les gouvernements confrontent, c'est de donner à la fois des incitations pour devenir innovateurs, donc des rentes, mais faire en sorte que les rentes soient pas telles qu'une fois que vous êtes devenu innovateur, vous dites ah, maintenant je suis le dernier et no more, et il y a plus de gens qui viennent à ma place. Et ça c'est toute la dialectique de la croissance. Et donc c'est ce domaine aussi extraordinairement intéressant qui s'appelle l'économie politique de la croissance. Donc voilà, donc on avait démarré là-dessus, on était très excités avec Peter Howitt, on s'est dit c'est vraiment une théorie très sympa, parce que tout d'un coup, la croissance devient un domaine, là où c'était vraiment ennuyeux, ça devient un domaine vraiment amusant, on peut faire plein de choses. Voilà. Mais évidemment, rien ne se passe jamais parfaitement, et voilà que paraissent certaines études empiriques qui viennent un peu troubler la fête. Alors d'autres qui ont fait de la croissance ont eu ces études empiriques, mais nous, on a dit, on doit quand même regarder ce qu'ils font. Parce qu'une autre attitude, c'est de dire, écoutez, nous on fait de la théorie, les autres font de l'empirique, on les laisse faire leur empirique dans leur coin, et on n'intervient pas. Et nous, on a dit, non, on ne peut pas faire ça. On doit confronter nos modèles à l'évidence empirique. Donc, et en fait, si vous voulez, l'idée, c'est qu'en fait, si on croit le modèle de manière littéralement, eh bien la relation entre concurrence et croissance devrait être négative. Or, qu'est-ce que trouvent les analyses empiriques? Les analyses empiriques, au contraire, montrent que la relation est positive. Enfin, que si on fait une droite, enfin, ou une courbe, elle a l'air d'être plutôt positive. Alors, comment réconcilier la théorie et l'évidence empirique? Et c'est là, si vous voulez, que... alors, certains pourraient dire, ben nous, une manière aurait été de dire, je jette mon modèle à la poubelle. L'autre aurait été de dire... Ben, j'ignore l'empirique, tant pis, eux, les données ont tort, quelque part, les données empiriques ont tort et la théorie a raison. Et nous, ce que nous avons fait avec Peter Howitt et avec d'autres co-auteurs, et c'est bien, eh bien, nous avons dit, on va collaborer avec des empiristes. Et les empiristes que nous avons trouvés, c'est Richard Blandel, qui a créé l'Institute of Fiscal Studies à Londres. C'est un micro-économètre, mais c'est un économètre et un empiriste qui respecte la théorie, qui comprend l'utilité de la théorie. Il y a beaucoup d'empiristes qui pensent que la théorie, ça sert à rien, comme il y a des théoriciens qui pensent que l'empirique ne sert à rien. Et lui est quelqu'un qui comprend la nécessité de dialoguer. Donc on a pu dialoguer avec lui et avec Rachel Griffiths qui travaillait avec lui. Et ce que nous avons fait, c'est de reprendre notre modèle en essayant d'identifier l'hypothèse ou les hypothèses restrictives qui conduisaient à cette prédiction contrefactuelle, qui faisait qu'on obtenait une prédiction différente de la réalité. On a fini par comprendre d'où venait le problème. Dans le modèle initial, seules les firmes inactive innove, c'est-à-dire que vous avez quelqu'un qui est en place et l'innovation suivante se fait par quelqu'un qui était en dehors du marché, qui était profit zéro, il innove et il fait un profit. Donc quand on est dans un monde comme ça, eh bien tout ce qui réduit le profit après innovation réduit l'incitation à innover. Puisque le profit d'un innovateur potentiel, c'est zéro avant d'innover, c'est un certain P après, et la concurrence réduit P, donc elle réduit l'incitation à innover. Mais en réalité, il y a deux types de firmes dans l'économie. Il y a des firmes qui viennent d'ailleurs, vous voyez, des firmes qui n'existaient pas, qui se créent et qui passent de zéro au profit P, mais vous avez également des firmes que j'appelle proches de la frontière technologique, qui elles, réalisent déjà des profits. Et là, c'est une histoire très différente, c'est que je suis une firme active, je suis proche de la frontière, je fais des profits, et la concurrence peut peut-être réduire un peu les profits post-innovation, mais ils réduisent encore plus les profits avant innovation. Donc, au total, ils augmentent l'incitation à innover. Et c'est cet effet de escape competition. On innove pour échapper à la concurrence. Et donc, il suffisait de faire un changement au modèle pour introduire ces firmes frontières. Et c'est ce que nous avons vu empiriquement. Un petit peu pour comprendre ça, imaginez une classe. Au lieu d'imaginer des firmes, imaginez une classe d'élèves. Imaginez qu'un jour, on fasse rentrer un nouvel élève brillant dans cette classe. Comment les élèves de la classe vont-ils réagir à cette concurrence de cet élève brillant? Eh bien, ce qui va se passer, c'est que la réponse est que l'arrivée de ce nouvel élément brillant va inciter les meilleurs élèves de la classe à travailler plus dur pour rester les meilleurs de la classe. Et ça, c'est l'effet de escape competition. Mais d'un autre côté, ça va décourager les moins bons élèves pour qui rattraper devient encore plus difficile, maintenant qu'il y a encore un élément brillant en plus. Eh bien, ça, il y a eu des études d'ailleurs là-dessus, par ma collègue Caroline Oxby, qui montre exactement que dans les classes, il y a cet effet que vous observez avec les firmes. Les firmes, c'est comme des individus. Ça se conduit de la même manière. Et vous avez ce double effet-là. Donc au total, l'effet de la concurrence sur l'innovation prend la forme d'un U inversé qui synthétise ces deux effets opposés. L'effet de découragement sur les firmes qui sont très en deçà de la frontière et l'effet de escape competition qui s'applique aux firmes près de la frontière. Et donc en fait, c'est intéressant parce que ces prédictions ont été testées sur le même type de données que celles utilisées dans les études empiriques. Et donc finalement, on a montré qu'on avait le U inversé partout. On a essayé dans tous les pays et on trouve à chaque fois ce U inversé. Et c'est assez intéressant parce que ce dialogue finalement, au bout du compte, entre nous les théoriciens et les empiristes, eh bien, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a enrichi, nous, Howitt et moi, et mes amis théoriciens, parce que on a compris qu'il n'y avait pas un, mais deux effets fondamentaux de la concurrence sur la croissance, et on a identifié sous quelles conditions l'un ou l'autre de ces deux effets dominait l'autre, de façon à générer ce U inverse. Quant à nos amis empiristes, eux, ils avaient vaguement l'idée d'une relation croissante, et maintenant, ils savent que la relation entre concurrence et croissance est plus subtile que ce qu'ils pensaient. Donc, finalement, tout le monde a gagné de cette coopération entre théorie et empirique. Voilà. Bon. Voilà. Alors, le paradoxe argentin, il est un beau pays qui s'appelle l'Argentine, vous êtes sûrement allé, c'est un pays très sympathique. En 1890, l'Argentine avait un niveau de PIB par habitant, de PIB par tête, qui représente le niveau de vie de l'Argentine, disons à peu près à 40%, vous voyez, à 40% du niveau de vie américain, du PIB par tête américain. Et en fait, ça s'était maintenu assez longtemps. Vous voyez, de 1870 au fin des années 30, L'Argentine demeure à 40% du niveau américain. Or, l'Amérique croit beaucoup, ce qui veut dire que l'Argentine croit beaucoup, puisqu'elle se maintient à 40%. Certes, elle ne rattrape pas, mais elle garde le rythme de croissance des États-Unis. Et puis, on voit que ce qui se passe, c'est qu'à partir de la fin des années 30, eh bien, il y a une rupture de tendance. Et donc, la question, c'est de voir comment ça se fait que l'Argentine s'est si bien débrouillée avant et après a décroché. D'accord ? Et l'explication que propose la théorie de la croissance schumpeterienne, c'est que des pays comme l'Argentine étaient dotés d'institutions ou avaient suivi des politiques qui étaient bonnes pour la croissance par l'accumulation de capital ou pour la croissance par le rattrapage, notamment les substitutions aux importations. Vous savez, ils avaient beaucoup cette politique de dire « on n'importe pas, mais on produit ce qu'on pourrait importer ». Alors évidemment, le problème, c'est que ça vous soumet à peu de concurrence. Et ben, on peut rattraper, mais c'est pas une politique qui stimule beaucoup l'innovation, puisqu'on empêche la concurrence des pays étrangers, quelque part. Et en fait, ils n'ont pas su faire évoluer leurs institutions pour devenir une économie innovante. Or, plus un pays se développe, plus il se rapproche de la frontière, plus on sait que c'est l'innovation frontière qui devient le moteur de la croissance. C'est-à-dire, quand vous êtes loin de la frontière technologique, eh bien, la Chine ou d'autres pays émergents font de la croissance beaucoup en rattrapant. Mais quand vous êtes à la frontière technologique, eh bien, il faut faire de l'innovation sur vous-même. C'est ça que j'appelle l'innovation frontière, pour continuer à générer de la croissance. Or, les politiques et institutions qui sont bonnes pour le rattrapage technologique ne sont pas les mêmes que celles qui sont bonnes pour l'innovation à la frontière. Donc ça, si vous voulez, c'est toute cette approche-là qui a été développée. Voilà. Mais donc ça, c'est le paradoxe argentin. Je passe à la seconde énigme de la croissance. C'est innovation, inégalité, mobilité sociale. Au cours des dernières décennies, on a assisté dans les pays développés à une augmentation accélérée des inégalités de revenus, en particulier tout en haut de l'échelle. Le top 1%, c'est-à-dire la fraction du revenu qui est gagnée par le top 1% le plus riche, a augmenté très très vite. Je vais vous montrer une figure, mais je la montre un petit peu plus tard. Depuis notamment les années 80. Comment expliquer cette évolution? Donc tout le monde l'a noté. Comment peut-on l'expliquer? D'accord? En fait, ce qui se passe, c'est quand vous faites de l'innovation, eh bien, j'augmente mon markup, j'augmente ma marge à l'égard du reste du marché, parce que je fais mieux qu'avant. Donc, ma marge, ça m'augmente mon top 1%. Vous voyez ce que je veux dire? Vous augmentez vos marges bénéficiaires quand vous innovez. Parce que les gens sont prêts à payer plus. Vous avez un produit de meilleure qualité, ou bien vous avez réduit vos coûts. Dans les deux cas, vous augmentez votre marge bénéficiaire. Et en général, vous tendez à utiliser moins de travail. Les deux vont dans le sens d'augmenter la part du 1%. Mais donc, on a montré, nous, qu'en fait, il y avait un lien causal de l'innovation vers le top 1% inégalité. Alors, pourquoi est-il important de savoir que l'augmentation du top 1% résulte en partie de l'innovation et pas seulement de rentes foncières et spéculatives? Pourquoi? Pourquoi c'est important? Parce que l'innovation a des vertus que d'autres sources de top 1% n'ont pas. Une première vertu, c'est que l'innovation génère de la croissance et elle est même le principal moteur de croissance dans les pays développés. C'est quand même une vertu, hein, c'est pas négligeable. L'innovation vous donne la croissance, donc quand même, on dit, tiens, c'est différent. Alors que mettre des barrières à l'entrée, hein, moi j'étais dans un hôtel la semaine dernière, c'était clairement des rentes, et là, je crois pas que ça génère beaucoup de croissance, même pareil que l'innovation. Donc, ou bien il y a d'autres rentes auxquelles on peut penser. Voilà, les barrières à l'entrée diverses. Et donc l'innovation a cette vertu de générer de la croissance. La deuxième chose, c'est que s'il est vrai que l'innovation profite dans le court terme à ceux qui ont généré l'innovation, à ceux qui ont permis l'innovation, eh bien dans le long terme, les rentes de l'innovation se dissipent. Pourquoi elles se dissipent? Parce que vos innovations sont imitées par d'autres. Donc quand il y a de l'imitation, eh bien ça réduit vos rentes. Et puis par ailleurs, un jour, quelqu'un fait mieux que vous, et là vous disparaissez. Donc les rentes de l'innovation sont typiquement temporaires. Donc c'est intéressant, c'est un élément intéressant en soi. Et enfin, il y a une autre chose, une autre caractéristique de l'innovation. C'est que l'innovation, comme je le disais tout à l'heure, c'est la destruction créatrice. C'est-à-dire que c'est le nouveau qui remplace l'ancien. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'innovation génère de la mobilité sociale. Elle permet à de nouveaux talents d'entrer sur le marché et d'évincer partiellement ou totalement les firmes et intérêts en place. Il est intéressant à cet égard de remarquer qu'aux États-Unis, la Californie, qui est actuellement l'État américain le plus innovant, devance largement l'Alabama, qui est parmi les États américains les moins innovants, à la fois en matière de part du top 1%, mais aussi en matière de mobilité sociale. Vous avez beaucoup plus de mobilité sociale en Californie que vous en avez en Alabama. Il y a des collègues à moi, Raj Chetty, avec d'autres collègues, Emmanuel Saez, et d'autres collègues, qui ont fait une étude où ils ont regardé les municipalités aux États-Unis. Et ils connaissent le revenu des parents entre 96 et 2000, quand les enfants avaient 15 ans. Et après, ils peuvent regarder le revenu de l'enfant entre 2010-2011, quand l'enfant a 30 ans. Et il regarde si le revenu de l'enfant est très corrélé avec le revenu des parents. S'il est très corrélé, eh bien, on dit qu'il n'y a pas beaucoup de mobilité sociale. S'il n'est pas très corrélé, on dit qu'il y en a. Par exemple, si on trouve que conditionnellement à avoir des parents qui étaient dans le quintile le plus bas de la distribution des revenus, il y a une forte probabilité pour l'enfant d'être dans le quintile supérieur, ben là, on dit qu'il y a beaucoup de mobilité. Et c'est ce que je regarde là. Et on voit qu'en fait, il y a un lien très positif entre innovation et mobilité sociale. On peut montrer aussi que c'est particulièrement l'innovation par les entrants, par ceux qui brevettent pour la première fois, qui génèrent la mobilité. Pas tellement l'innovation par les incumbents. Donc on est vraiment dans l'optique schumpeterienne. C'est l'innovation par les entrants qui génèrent la mobilité sociale. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a montré dans cette étude. Alors maintenant, il y a une autre que je veux vous montrer, qui est assez étonnante. C'est le lien entre innovation et deux mesures d'inégalité très différentes. L'une, c'est le top 1%. Et l'autre, c'est le Gini. Le Gini, si vous voulez, c'est une mesure globale d'écart à l'égalité. Si vous voulez, c'est une mesure d'inégalité globale. Plus le Gini est grand, plus l'inégalité globalement est grande. Le top 1%, c'est juste l'inégalité tout en haut. Et ce qui est remarquable, et c'est là que l'innovation, c'est formidable, l'innovation, c'est vrai qu'elle augmente le top 1%, mais elle n'augmente pas le Gini. Quand vous faites plus d'innovation, peut-être vous augmentez le top 1%, mais vous n'augmentez pas l'inégalité au sens large et vous augmentez la mobilité sociale.
Vous écoutez France Culture, la leçon inaugurale de Philippe Aguillon, Repenser la croissance économique en 2015 au Collège de France.
La Suède, hein, je reviens toujours à la Suède évidemment, la Suède a suivi des politiques innovantes, des politiques d'innovation. Elle a notamment fait une grande réforme fiscale, celle que moi je voudrais voir appliquée en France, pour à la fois rester redistributif, financer des services publics de qualité. Vous savez, là-bas en Suède, on ne paye pas un sou pour la santé, on ne paye pas un sou pour l'éducation jusqu'au doctorat. Hein. Donc ça, c'est tout à fait ce qui me convient, moi. Et en même temps, ils ont rendu la fiscalité plus incitative. Et c'est très intéressant parce que qu'est-ce qu'on a vu? L'innovation s'est mise, à partir des années 90 en Suède, s'est mise à augmenter très vite. La croissance de la productivité s'est accélérée. Et qu'est-ce qu'on regarde? Le top 1%, lui aussi, il a augmenté en Suède. Mais regardez le Gini en Suède, il n'a pas augmenté d'un iota depuis 25 ans. Donc, ils ont fait des bonnes réformes. Parce que certes, ils ont augmenté le top 1%, mais ils se sont enrichis et ils n'ont pas augmenté les inégalités au sens large et ils n'ont pas réduit la mobilité sociale. Donc, ils ont fait de bonnes réformes. Voilà. Donc, c'est un petit peu, voilà, un petit peu comment déjà je vais dans ce... Bon, maintenant, je vais à un autre débat. Donc en contraire, donc qu'est-ce que je veux dire là-dessus? C'est que maintenant, si je réunis toutes les pièces du puzzle pour répondre à la question, est-ce qu'il faut s'opposer à l'innovation sous prétexte qu'elle contribue à augmenter la part du top 1%? Vous avez la réponse, mais je vous la donne, mais vous l'avez. Eh bien, la réponse est non, parce que l'innovation génère de la croissance, elle n'augmente pas les inégalités au sens large, et au contraire, elle stimule la mobilité sociale. Donc vous prenez. Corollaire de cette discussion, il faut une fiscalité qui sache distinguer entre l'innovation et d'autres sources d'inégalités en haut de l'échelle. Autrement dit, maintenant je sais que je me suis mis à dos quelqu'un qui s'appelle Carlos Slim. Voilà, c'est monsieur, sûrement un monsieur très bien, mais moi comme je l'utilise à chaque fois comme pour le diaboliser, il va me détester ce monsieur. Autrement dit, il faut savoir distinguer entre un Steve Jobs et un Carlos Slim. Et l'idée c'est de dire, voilà, une fiscalité qui décourage l'innovation, non seulement nuirait à la croissance, mais également réduirait la mobilité sociale. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres sources. Il ne faut pas traiter l'innovation comme vous traitez d'autres sources du top 1%. Vous devez avoir une fiscalité qui tient compte de la spécificité de l'innovation. Alors, qu'est-ce qu'elle doit être exactement? Là, il y a une recherche, tout est à faire. Mais en tout cas, voilà, les choses sont plus complexes que ce que certains peuvent penser. Voilà. Je voulais juste terminer là-dessus. Je passe maintenant à la stagnation séculaire. La stagnation séculaire. En 1938, l'économiste Alvin Hansen expliquait lors de sa presidential address devant la American Economic Association, l'Association américaine d'économie, que selon lui, les États-Unis étaient condamnés à une croissance faible dans le long terme. Donc chaque fois que vous avez une grande crise, eh bien vous avez quelqu'un qui vous dit eh bien c'est terminé, on est condamné à la croissance faible. Donc après 1938, donc après la crise de 1929, c'était monsieur Alvin Hansen. Il n'anticipait pas la Seconde Guerre mondiale qui a eu évidemment des effets épouvantables, mais qui a eu un effet de faire rebondir la dépense publique et la demande agrégée. Depuis, s'est produit une autre grande crise financière, celle de 2007-2009, ce qui a conduit Larry Summers et d'autres à jouer le rôle de monsieur Hansen. Et Larry Summers et d'autres avec lui ont repris le terme de stagnation séculaire pour décrire une situation qu'il juge similaire à celle décrite par Hansen en 1938. L'idée défendue par Summers était que la demande en biens d'investissement est si faible qu'il faudrait un taux d'intérêt négatif pour rétablir le plein emploi. Donc c'est une histoire de demande. Mais d'un autre côté, vous avez Robert Gordon, pour qui, en fait, la stagnation séculaire reflète un problème d'offre. Et qu'est-ce que c'est, Monsieur Gordon? Monsieur Gordon, il considère que l'innovation, c'est comme des arbres fruitiers. C'est-à-dire que les innovations, les fruits les meilleurs, les plus juteux, c'est les plus faciles à cueillir. Mais ceux où il faut grimper et se faire mal, voilà, et ben ceux-là, ils sont en plus amers, moins bons. Et lui considère que l'innovation, c'est comme l'arbre fruitier. Les choses faciles sont les meilleures et les choses difficiles. Donc les grandes innovations, la machine à vapeur, l'électricité, on les a faites. Et maintenant, il reste plus que les petites choses. Et donc, c'est un petit peu du, après moi, le déluge. Hein, c'est un petit peu ça, Gordon. Les économistes schumpeteriens dont je suis ont une vision plus optimiste du futur que Summers et Gordon. Et ce, pour au moins deux raisons. La première raison, c'est que la révolution dans les technologies de l'information et des télécommunications a amélioré la façon de produire des idées. Vous voyez, maintenant, moi, j'ai un collaborateur, j'ai un co-auteur qui est en Australie, j'ai des co-auteurs qui sont aux États-Unis. Ça veut dire que mes projets de recherche, ils tournent sans arrêt, quoi. J'ai toujours quelqu'un qui travaille sur des projets de recherche. Comment peut-on penser que la technologie pour produire des idées est moins bonne qu'avant, étant donné ces changements-là? D'accord? Ça, c'est la première raison qui me pousse à être totalement en désaccord avec la vision de Gordon. La deuxième considération, c'est la mondialisation, qui est contemporaine à la vague des technologies de l'information et des communications. Qu'est-ce qu'elle implique, la mondialisation? Elle augmente en fait les gains potentiels de l'innovation. Quand vous innovez, que vous faites quelque chose de très bien, vous pouvez le vendre au monde entier et vous faire beaucoup d'argent. Donc l'incitation à innover est beaucoup plus grande qu'avant. Donc d'un côté, la technologie pour innover est bien meilleure et l'incitation pour innover est beaucoup plus grande. Comment vous pouvez penser que l'innovation et la croissance vont réduire? Donc, et en fait, on assiste bien à une accélération de l'innovation. Je vous ai bien montré tout à l'heure qu'il y avait une accélération du nombre de brevets aux États-Unis. Donc, c'est bien ce qu'on observe. Mais évidemment, ce qui se passe, et c'est là qu'ils reviennent, ils disent, mais oui, mais tu es bien sympathique, tu nous dis que l'innovation s'accélère, mais en même temps, pourquoi cette accélération de l'innovation ne se reflète pas dans une accélération de la croissance de la productivité? Et pourquoi la croissance de la productivité, elle n'accélère pas? Une recherche en cours avec Antonin Bergeot et Pete Clino. Pete Clino est un économiste, en fait, il est le meilleur économiste empiriste, enfin, un des meilleurs de la croissance de sa génération, de la génération actuelle. Il est à Stanford, et toujours Antonin, qui travaille avec moi et avec nous. Eh bien, on est en train de faire une recherche en cours et on suggère que la divergence entre le taux d'innovation d'un côté et le taux de croissance de la productivité de l'autre reflète en partie, au moins, un problème de mesure. Il y a en particulier le fait que les innovations, surtout celles qui se traduisent par la création de nouveaux produits, mettre du temps avant d'être prise en compte par les statistiques. Et c'est ce problème de mesure, ce problème de mesure a toute chance d'être exacerbé quand vous avez un fort taux de destruction créatrice. Quand vous êtes dans un secteur ou un endroit où sans arrêt il y a des nouveaux produits qui remplacent d'anciens produits, ce problème-là de mesure, il est magnifié. Mais ce qui est très intéressant, c'est que quand vous vous restreignez aux États américains où vous avez plus de créations destructrices que la moyenne, la relation entre le nombre de brevets déposés et le taux de croissance moyenne de la productivité est négative. On voit clairement qu'il y a un problème de mesure. Alors, il y a beaucoup d'autres choses à explorer. C'est une énorme boîte noire. Mais c'est dans cette direction qu'on va. Et c'est une recherche en cours. On aura davantage à raconter Donc ça, c'est déjà un motif d'optimisme. Moi, des gens qui me disent la stagnation séculaire, j'ai arrêté de vous dire, je crois qu'en fait, il y a beaucoup d'innovation et il y a des bonnes raisons pour ça. Et c'est parce qu'on ne sait pas mesurer l'apport de l'innovation dans la croissance. Je crois que ça va faire pas mal rebondir les débats. Je sais que Gordon a beaucoup de succès. Il est très bien. Moi, j'aime beaucoup Robert Gordon. Je sais qu'il est il y a beaucoup de groupies de Gordon ici en France. Mais je crois que ça apporte quelque chose au débat sur la stagnation séculaire. Voilà. Alors j'ai une autre raison d'optimisme, et mon autre raison d'optimisme, en fait, c'est les travaux de mon ami Gilles Berset et Antonin et leurs co-auteurs. Parce que qu'est-ce qu'ils ont montré, eux? Ils ont dit, ben voilà, l'Europe, c'est encore une autre histoire. L'Europe, elle croit moins que les États-Unis. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'ont pas fait les réformes structurelles. Voilà. Et c'est très intéressant parce que vous voyez, la Suède, par exemple, quand elle se met à faire ses réformes dans les années 90, la croissance, eh bien, elle augmente beaucoup plus vite après qu'avant. Mais ils ont multiplié par plus que 3 le taux de croissance de leur productivité entre avant et après les réformes de 90. C'est quand même extraordinaire ce qu'ils ont fait. Alors que le Japon, c'est le contraire. Ils n'ont rien pas fait grand chose et la croissance de la productivité, elle continue d'être, depuis la fin des années 80, beaucoup moins forte qu'elle était avant. Et là, ça veut dire qu'en fait, nos pays ont, en plus des États-Unis, beaucoup à faire pour être aussi performants. On sait que l'économie américaine est beaucoup plus résiliente que la nôtre. Je reviendrai là-dessus. Hein. C'est quand même une explication. Comment la France ne se met pas à croître plus vite alors que le prix du pétrole a baissé, que le taux d'intérêt a baissé, que le taux d'intérêt a baissé? Parce que les marchés sont extraordinairement rigides en France. Hein. Alors j'arrive à penser les politiques de croissance. Alors à la question, Faut-il s'impliquer dans les débats de politique économique? Alors, il y a toujours une question, on lit toujours, quand on fait une leçon inaugurale, une des choses à faire, c'est de lire les leçons inaugurales de vos prédécesseurs. Quand j'ai lu ceux de mes prédécesseurs en économie, ils se posent toujours un peu la même question. Où je me situe? Est-ce que je me concentre sur la recherche fondamentale ou est-ce que je m'implique directement dans le débat de politique économique? Où est-ce que je veux être? Eh bien, à cette question, mes prédécesseurs sur des chaires d'économie au Collège de France ont répondu de manière contrastée. Dans une première catégorie, celle des professeurs directement engagés dans le débat et l'action, on trouve Michel Chevalier, nommé en 1840, qui plaide en faveur du libre commerce et du développement industriel pour stimuler la croissance. Et il participe à la préparation du traité de libre-échange, le traité Cobden-Chevalier, entre la France et la Grande-Bretagne, signé en 1860. Puis vient Paul Leroy-Beaulieu, beau-fils de Michel Chevalier, et nommé au collège en 1880, un autre avocat acharné du libre-échange et du libéralisme, et un adversaire tout aussi acharné du collectivisme. Et vient ensuite François Pérou, nommé au collège en 1955, qui se distingue par ses prédécesseurs en dénonçant les inégalités générées, selon lui, par l'économie de marché et la concurrence. Ces trois prédécesseurs nous ont légué des réflexions très pertinentes sur la réalité, sur la pensée et les débats économiques de leur temps, mais ils n'ont pas produit de modèles théoriques ni d'analyse empirique. Dans une seconde catégorie, il y a mes prédécesseurs, ceux parmi mes prédécesseurs qui ont choisi de demeurer en retrait du débat public et se sont concentrés sur la recherche fondamentale. Alors, Edmond Malinvaux, nommé au Collège de France en 1988, est particulièrement connu pour ses travaux sur la théorie dynamique du capital en équilibre général. Il est également connu pour ses théories du chômage et du risque et pour ses manuels d'économétrie et de microéconomie qui nous ont tous formés. Il a formé des générations d'économistes, ont été formés par les livres de Malinvaux. Puis vient Roger Guenry, alors qui a fait énormément de choses, qui a en particulier profondément contribué à transformer la théorie de l'économie publique en y introduisant les incitations et les rendements croissants. Dois-je également rappeler que c'est Roger qui a fait découvrir l'économie en tant que discipline à Jean Tirole, qui est présent, qui nous fait l'honneur d'être présent parmi nous aujourd'hui. Je suis en quelque sorte un petit-fils de Roger, puisque je dois tout à Jean, en particulier de m'avoir initié à la théorie appliquée et introduit à la nouvelle économie industrielle dont je me suis servi comme socle dans l'élaboration du modèle de croissance schumpeterien. Entre ces deux groupes, celui des économistes engagés dans les débats de politique économique et celui des économistes davantage concentrés sur la recherche fondamentale, je me situe un peu au milieu. Parce que d'un côté, je suis avant tout un chercheur et un enseignant, et néanmoins, les débats de politique économique m'interpellent pour au moins deux raisons. Tout d'abord, pour des motifs strictement scientifiques. J'entends par là qu'analyser les politiques et interventions publiques permet de mieux comprendre les mécanismes de la croissance. Et je vais être plus spécifique là-dessus dans un moment. Plus c'est fait fou, plus on apprend. C'est intéressant. En fait, un pays, je vais revenir là-dessus, un pays où vous avez de très bonnes statistiques, mais vous auriez un dirigeant politique somnambule, c'est fantastique pour les économètes, parce qu'ils apprennent énormément, ils ont à la fois les données et voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans les raisons économétriques pour lesquelles c'est vrai, mais alors l'autre raison pour laquelle je m'intéresse à l'analyse, c'est parce que je pense que l'analyse économique, théorique et empirique permet d'influencer le débat. Et elle permet d'influencer le débat de deux façons. L'un, c'est de combattre les fausses bonnes idées. Je crois qu'en économie, il y a beaucoup de fausses bonnes idées. Sûrement, I'm not immune. Je crois que les miennes sont très fausses, bonnes, simplement bonnes, je sais pas, fausses. Sûrement. Mais en tout cas, on peut combattre les fausses bonnes idées. Et puis l'autre chose, c'est qu'on peut des fois clarifier les termes d'un débat. Donc je vais mentionner des idées qui sont des fausses bonnes idées et pourquoi je pense qu'elles sont fausses. Et puis d'autres, je vais vous donner l'exemple d'un débat qu'on peut clarifier grâce à la combinaison de théorie économique et d'analyse empirique. Voilà. Alors, d'abord, la politique économique et les politiques, informent-ils le chercheur? Eh bien, l'idée, c'est que dire que la politique économique peut être utilisée comme instrument, et le clientélisme aussi comme instrument. Alors, je vais vous expliquer un exemple de chaque. Politique économique comme instrument, et le clientélisme comme instrument. Qu'est-ce que ça veut dire, un instrument? Un instrument, c'est la chose suivante, en gros. Par exemple, je veux montrer que l'éducation, c'est bonne pour... Je voulais montrer que l'innovation augmentait le top 1%. J'avais montré une corrélation, mais en fait, je vous ai dit après, il y avait une relation causale. Comment vous établissez un lien causal en économétrie? Vous prenez un facteur qui a un effet direct sur l'innovation et qui n'affecte l'inégalité que par son effet sur l'innovation. Et à ce moment-là, vous avez un instrument et ça vous donne une causalité. Donc, vous avez transformé un lien, une corrélation en une causalité. Donc, on cherche des instruments. Alors, je vais vous donner des exemples d'instruments. Un vient de la politique économique. Alors, la politique économique, c'est ce que, c'est quand je, tout à l'heure, j'ai parlé de la relation entre concurrence et innovation. Quand, dans mes études là-dessus, pour comprendre la causalité de la concurrence vers la croissance, il fallait trouver un instrument. Et l'instrument que nous avons trouvé, eh bien, c'est l'introduction du marché unique. L'introduction du marché unique en Europe a eu un effet d'augmenter la concurrence. Et c'est ça qu'on a utilisé comme instrument. En Angleterre, il y a aussi Madame Thatcher qui a fait des déréglementations. C'était peut-être horrible, rendu la vie de plein de gens très difficile, mais pour l'économètre, c'était une aubaine, parce que, évidemment, les déréglementations de Madame Thatcher, c'est un merveilleux instrument d'augmentation de la concurrence en Angleterre. Donc on peut analyser l'effet causal de la concurrence sur la croissance en utilisant cet instrument. Donc voilà, ça c'est un exemple où la politique économique sert d'instrument. Je vais vous raconter un truc un peu plus rigolo, c'est le clientélisme comme instrument. Alors là, c'est aux États-Unis, je m'intéressais beaucoup à l'effet de l'éducation supérieure sur la croissance dans les États développés. Massachusetts, mais j'ai essayé de avec Eli Cohen, on a fait un rapport, on disait éducation et croissance pour le CAE, où on avait expliqué que dans les pays plus développés, il fallait davantage d'éducation supérieure. On a repris ça avec Gilles Berset dans les leviers de la croissance économique. Donc c'est une idée importante de dire, plus vous avez un pays ou une région développée, plus c'est l'éducation supérieure qui est bonne pour la croissance. Pourquoi ? Parce que plus l'innovation, on sait que l'innovation est importante pour la croissance dans une zone développée. Mais on sait que pour l'innovation, comme le disait très justement Alain, il vous faut des bonnes universités, de bien financées, de la bonne recherche bien financée, fondamentale en particulier. Et donc, on a essayé de tester ces théories-là. Il fallait un instrument pour l'éducation. Alors, aux États-Unis, on en a trouvé un. Eh bien, aux États-Unis, c'est l'histoire de M. Lister Hill. Alors, laissez-moi raconter cette histoire. Vous avez on a pris trois États, l'Alabama, le Mississippi et la Géorgie. Et des États à peu près semblables. Hein. Et il y a ce qu'on appelle les comités d'appropriation aux États-Unis. C'est-à-dire que le Sénat et la Chambre des représentants ont des comités qui allouent des fonds fédéraux à des États. Mais si moi je suis M. Lister Hill, sénateur de l'Alabama, évidemment comme je vais être réélu sénateur de l'Alabama, je vais faire en sorte que ce soit l'Alabama qui reçoive les subventions. Et ça c'est un instrument. Et on voit d'ailleurs que quand M. Lister Hill, démocrate, mais ça veut rien dire démocrate en Alabama, parce que ils étaient aussi méchants et même plus méchants que les républicains à l'époque, je ne rentre pas dans les détails, quand M. Lister Hill devient Appropriation Committee Head du Sénat, regardez les dépenses, ça c'est les dépenses en éducation supérieure, en recherche, en research education en Alabama. Évidemment, elles dépassent la Géorgie et le Mississippi. Et après, quand il cesse d'être Head of Appropriation Committee, on revient au même niveau que les autres. Ça, c'est un merveilleux instrument. Alors, c'est très amusant parce que, si vous voulez, en ironisant un peu, les faveurs politiques ou les errements politiques sont une mauvaise chose en soi, mais elles font le bonheur des économètres à l'affût de bons instruments pour mieux isoler l'effet causal qu'ils cherchent à mettre en évidence. De ce point de vue, on peut penser que le goût immodéré pour l'expérimentation fiscale en France fera de notre pays un laboratoire de premier plan pour analyser l'effet de différentes politiques fiscales sur l'innovation et la croissance.
Collège de France et France Culture vous présente l'économiste Philippe Aguillon, Repenser la croissance économique.
Une raison plus directe pour un chercheur en économie de s'intéresser aux politiques publiques, c'est que ce faisant, eh bien, il peut combattre, il peut influencer les modes de pensée. D'abord, combattre certaines fausses évidences ou certains faux raisonnements. On demandait à l'économiste John Robinson, qui a été très influente à Cambridge, Angleterre, pourquoi il fallait étudier l'économie. Et sa réponse était pour vous protéger des économistes. Très important. Étudiez l'économie, je vous conseille. Même pour protéger de moi. Ensuite, l'autre raison pour laquelle l'autre manière d'influencer le débat, d'influencer la pensée sur la politique économique, c'est simplement qu'on clarifie les termes d'un débat, là où règne un grand degré de confusion. Donc je vais vous donner d'abord deux exemples de fausses idées que l'économie, qu'une analyse économique peut permettre de mettre en question. Et puis après, je vais vous donner un exemple où, en fait, eh bien, il y a un débat où les gens ont les idées complètement en yaourt et que on peut, avec une analyse économique, tout d'un coup dire, voilà, eh bien, on peut structurer la pensée, quoi. Et que ça part pas dans tous les sens. Voilà. Donc, je vous donne les fausses évidences. Il y a d'abord la politique industrielle dans une économie de l'innovation. L'un des piliers de l'État-providence pendant la période des 30 glorieuses en France était notre politique industrielle. Celle-ci se pratiquait à travers le réseau des grandes entreprises publiques. Je ne veux pas du tout m'attaquer aux grandes entreprises publiques, elles sont très très bien, c'est très très bien, mais également en subventionnant l'investissement de quelques grandes entreprises privées qu'on appelait les champions nationaux. Mais nous avons vu que la croissance par l'innovation requiert la concurrence et la libre entrée pour que la destruction créatrice puisse s'opérer. Et également, on sait que la concurrence vous dit qu'on innove pour échapper à la concurrence. Donc on sait que c'est important d'avoir la concurrence quand vous êtes une économie d'innovation. Et c'est également important, quand vous avez une économie de l'innovation, de fermer des activités devenues non rentables. Or, une politique industrielle colbertiste, qui se concentre sur quelques champions nationaux, biaise forcément la concurrence, entrave l'entrée de nouvelles firmes innovantes. Cet argument-là a conduit un certain nombre d'économistes et de décideurs, Anne Kruger et d'autres aux États-Unis, mais d'autres ailleurs, à proposer l'abandon pur et simple de toute politique industrielle. C'est-à-dire qu'ils sont allés passer d'une extrême à l'autre. Ils ont dit, comme on veut de l'innovation et comme on veut de la concurrence, plus de politique industrielle. Il recommande au contraire au gouvernement de s'en tenir à des ciblages que j'appelle horizontaux, aider les écoles, aider les universités, aider la recherche, faites du soutien aux PME innovantes, mais ne faites aucun choix sectoriel vertical. De dire, voilà. Ils ont été dans l'extrême inverse. Et la Commission européenne, d'une certaine façon, aussi a donné dans cet extrême-là, vous voyez, de passer d'une extrême à l'autre. J'avais d'un côté des colbertistes nostalgiques, d'accord, qui voulaient rester aux Trente Glorieuses, nous en avons en France. Et de l'autre côté, des ultralibéraux qui disent « c'est fini l'État minimal, l'État régalien, plus de choix sectoriels, plus rien du tout ». Entre ces deux positions, il y a place pour une politique industrielle « new look ». Plus favorable à la concurrence parce que moins biaisée en faveur d'un petit nombre de firmes. En particulier des travaux récents avec Mathias de Watripon, ici présent, collaborateur de toujours, montre sur des données de firmes chinoises, parce que on n'arrivait pas à avoir des données européennes, très intéressant, on ne peut pas avoir vraiment les données européennes, parce que on n'est pas censé faire de la politique sectorielle en Europe, voyez. Donc on ne peut pas avoir les données, mais en Chine on peut les avoir. Donc sur données chinoises, on montre qu'une politique industrielle qui cible des secteurs plus concurrentiels, eh bien, et distribue les subventions pas à une personne, mais de manière plus diffuse au sein des secteurs, et pas seulement à des firmes existantes, mais à des entrants, c'est ce que propose Juncker maintenant. C'est-à-dire que vous pouvez choisir des secteurs, mais prenez des secteurs concurrentiels et aidez ces secteurs de manière qui ne favorise pas les firmes en place au détriment des entrants potentiels. Si vous le faites comme ça, eh bien, vous générez davantage de croissance. Ça veut dire que c'est pas la question est-ce qu'il faut, la question n'est pas celle d'un oui ou d'un non à la politique industrielle. D'abord, tout le monde en fait, sans le dire. C'est un peu le « ask dentelle hein. ». Elle est plutôt comment repenser la gouvernance de la politique industrielle pour la rendre plus compatible avec la croissance par l'innovation. Voilà tout un chantier de recherche et d'expérimentation que je soumets aux jeunes générations et chercheurs. La question n'est pas oui ou non, oui à la politique industrielle, elle est comment la faire, comment la gouverner différemment. C'est pas qu'il faut plus de politique industrielle, il la faut, mais différente de celle des Trente Glorieuses. Et donc il faut penser, il faut se donner un peu, être pas paresseux intellectuellement, dire je vais repenser la gouvernance des politiques industrielles. Je vous donne maintenant un autre exemple, c'est les réformes structurelles et la flexibilité macro. C'est un débat très important, parce que c'est le débat qu'on a avec Merkel. Il y a, face à une récession, il y a d'un côté ceux qui prônent des politiques de relance, notamment par le déficit et la dépense publique. De l'autre, il y a ceux qui disent non, il faut surtout que l'État se désengage pour réduire les impôts, pour réduire les taux d'intérêt. Et tout va repartir. Ça, c'est à nouveau. C'est la même division. J'ai ceux qui sont la relance keynésienne. On dépense n'importe où pour faire repartir la machine. Et il y a ceux qui disent au contraire, non, surtout ne faites rien, pas de dépenses, réduisez les impôts, réduisez la dépense publique, vous ferez baisser les taxes et les taux d'intérêt, et ça repartira de cette façon. Donc vous avez d'un côté ce que j'appelle les keynésiens vieille mode, hein, et de l'autre côté, vous avez les ultralibéraux, d'accord. Donc, pour expliquer pourquoi l'économie américaine s'est montrée plus résiliente que l'économie européenne suite à la crise de 2007-2009, eh bien, vous retrouvez certains qui invoquent un manque de réactivité macroéconomique en Europe, alors que d'autres mettent l'accent sur le fait que plusieurs pays européens, dont le nôtre, ont trop tardé à mettre en œuvre les réformes structurelles. Donc, il y a ce débat-là. Et on a l'impression que l'un s'oppose à l'autre. Et à nouveau, entre les deux, la position, elle est de synthèse. Notre sentiment à moi et mes co-auteurs, donc je travaille avec Enis Karoubi qui est ici, avec Emmanuel Fary qui est à Harvard, avec Gabriel Chodorov et avec Mathieu Lequin, on regarde cette question-là et en fait ce qu'on a montré c'est la chose suivante, et c'est encore une recherche en progrès, c'est-à-dire qu'on montre qu'en fait, qu'est-ce que je représente là-dessus ? Je représente les effets d'une politique monétaire contracyclique. Qu'est-ce que ça veut dire contracyclique ? Ça veut dire dans les périodes de récession, vous baissez les taux d'intérêt et vous les réaugmentez dans les périodes d'expansion. Comme ça, vous aidez les firmes à investir en R&D en période de récession. Vous aidez aussi les consommateurs à consommer plus en période de récession. Et donc, c'est des politiques qu'il faut contracycliques. On est d'accord. Ça, c'est, plus c'est contracyclique, plus c'est proactif, d'accord? Et on regarde l'effet de ces politiques sur la croissance. Et ce qu'on voit, sur données sectorielles, ça, c'est des secteurs dans les pays de l'OCDE, on voit que les effets d'une politique monétaire, si je passe du quartile le plus bas de politique monétaire contracyclique au quartile supérieur, c'est-à-dire les politiques monétaires les plus contracycliques, et que je passe de l'un à l'autre et je regarde l'effet sur la croissance, eh bien, quand vous avez des secteurs où il y a des barrières à l'entrée, des high barriers to trade and investment, eh bien, l'effet est très, très petit. Tandis que si vous faites des politiques contracycliques dans un univers où vous avez peu de barrières, beaucoup de concurrence et peu de barrières à trade and investment, l'effet est très important. Ça veut dire qu'en fait, Draghi avait raison. Draghi, il y a 2 ans, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, moi, je peux faire la politique monétaire plus proactive, faire du quantity easing, faire ça. Mais si vous ne faites pas les réformes structurelles, ça ne sert à rien. Et il a raison. Il faut les deux. Donc c'est très bien parce qu'on peut avoir un dialogue constructif avec Mme Merkel. Elle nous demande de faire des réformes structurelles. Nous lui demandons de la proactivité macro. Eh bien, il faut les deux, et on le voit objectivement. C'est pas juste qu'il faut les deux pour que la confiance se rétablisse entre la France et l'Allemagne, mais c'est que il faut les deux parce qu'objectivement, l'un complète l'autre pour donner de la croissance. Il faut les deux en même temps. Il faut cesser d'opposer l'un à l'autre. Et ça, c'est, voilà, c'est une manière différente de raisonner. Donc, allez, donne à nouveau comme des fausses bonnes idées. Ceux qui pensent que si on est pour une politique de relance, on est forcément contre les réformes structurelles. Et ceux qui pensent que les réformes structurelles, ça veut dire non, forcément, on est contre les politiques plus proactives. C'est pas vrai. Il faut les deux à la fois. Voilà. Donc, alors je veux maintenant arriver à comment changer les termes d'un débat. Alors, il y a un débat très important qui est celui de comment réconcilier croissance et maîtrise des inégalités. J'étais au FMI pendant une semaine pour donner des cours en fait et pour avoir rencontré un certain nombre de personnes et à la Banque mondiale cet été. Et j'ai rencontré plusieurs chercheurs qui disent quand même on doit s'intéresser à la croissance et aux inégalités quoi. Et ce qu'ils faisaient c'est une régression statistique de l'inégalité sur la croissance. Mais ils regardaient l'inégalité au sens large sur la croissance. Et évidemment ils trouvent rien parce qu'on voit rien. Voilà. Banerjee Duflo ont montré qu'on ne voit pas grand-chose, d'autres ont essayé également. Donc si vous essayez de faire ça, vous êtes dans le brouillard, quoi. Et ils en sont là, quoi. Et je leur ai dit, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Vous arriverez nulle part. Ce qu'il faut que vous fassiez, c'est de regarder les leviers de croissance un par un. On sait, je l'ai mentionné tout à l'heure, que les leviers de croissance, et mes travaux avec Gilbert, Elie et mes autres collaborateurs, on sait que les leviers de croissance dans une économie avancée, c'est l'éducation supérieure, c'est des marchés des biens plus dynamiques, plus concurrentiels notamment, et des marchés du travail plus dynamiques. Et on peut se dire, voilà, regardons un par un ces réformes, qui sont bonnes pour la croissance dans les pays développés, puisqu'elles stimulent l'innovation. Demandons-nous, qu'est-ce qu'elles font aux différentes mesures d'inégalité? Mais vous vous souvenez que tout à l'heure, j'avais parlé de plusieurs mesures d'inégalité. Il y avait le top 1%, il y avait l'inégalité au sens large, et il y avait la mobilité sociale. Donc il faut savoir de quoi on parle. Eh bien, regardons l'éducation. Ça, c'est les données de Chetty. Vous savez, mon ami Chetty, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui regardait la mobilité sociale entre municipalités américaines. Il représente en abscisse, en fait, les tests PISA, l'équivalent des PISA aux États-Unis, et en ordonnée la mobilité sociale. Et il se rend compte qu'il y a une corrélation fortement positive entre des bons tests PISA et de la mobilité. C'est pas un scoop. Hein, ça vous étonne pas quand même, non? Que plus l'éducation. Donc ça, c'est normal. Donc l'éducation, elle est bonne pour la croissance, mais elle est bonne aussi pour le. Ça, jusqu'à maintenant, c'est pas très surprenant. Mais ce qui est surprenant, c'est ce qui va venir. Je vous ai dit qu'il y a 3 trucs. Il y a le marché des biens dynamiques et le marché du travail dynamique. Regardons donc les 2 autres. Ça vous représente, en fait, alors, c'est, en abscisse, j'ai le. Ce qu'on appelle le turnover de firmes, vous voyez, c'est le taux auquel les nouvelles firmes remplacent d'anciennes firmes. Donc, il y a un endroit où il y a beaucoup de créations destructrices, hein, c'est là où ça se remplace beaucoup. Les endroits où il y a peu de créations destructrices, il y a peu d'entrées, peu d'exits. Là, c'est quand il y a beaucoup d'entrées, beaucoup d'exits. Et ce que je représente en ordonnée, c'est une mesure inverse de la mobilité sociale, c'est la différence de revenus entre des enfants qui sont issus de familles pauvres et des enfants qui sont issus de familles riches. Quand la différence est grande, vous avez peu de mobilité sociale. Et ce qu'on voit, c'est que dans les endroits où il y a plus de concurrence et de turnover des firmes, il y a plus de mobilité sociale. Parce qu'en fait, la destruction créatrice opère mieux. Ça revient à la même idée que tout à l'heure. Donc, en fait, quand vous dynamisez le marché des biens et services, non seulement c'est bon pour la croissance, pour l'innovation, mais c'est bon pour la mobilité sociale. À ce moment-là, je prends. Hein, quand j'ai ça, je prends. Regardons maintenant les emplois, le marché du travail. La même chose. Dans les endroits où vous avez plus de job turnover, c'est-à-dire un taux de destruction et de création d'emplois plus grand, eh bien, c'est aussi les régions où vous avez plus de mobilité sociale. Donc, vous voyez, c'est très intéressant parce que ça vous encourage, ça peut dire on peut faire une croissance. Alors, bien sûr, qu'il y a des réformes qu'on pourrait faire pour aider à ça. Par exemple, une bonne formation professionnelle dans notre pays aiderait à magnifier encore la relation entre marché du travail flexible. Donc, c'est savoir comment on organise cette flexibilité-là. Et c'est ça les réformes. Mais l'intérêt, c'est de m'en dire, voilà, vous faites de la mobilité, et bien si vous la faites intelligemment, vous faites non seulement de la croissance, mais vous faites de la mobilité sociale. Vous n'augmentez pas les inégalités au sens large, parce qu'on sait qu'il y a un lien très 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 clair. Plus de mobilité sociale implique moins d'inégalités au sens large, en tout cas pas plus d'inégalités au sens large. Donc si vous voulez, c'est comme ça qu'on c'est la manière de repenser le problème. Alors maintenant, j'arrive à la fin. Je sais que c'est terrible pour vous, vous dites, mais non, on l'aime tellement, on en voudra encore une heure, mais je dois vraiment vous décevoir. On arrive à la fin. La fin s'appelle Next, d'accord? Qu'est-ce que je fais après? Qu'est-ce qu'on fait? Il est toujours difficile de prévoir d'où viendront les prochaines grandes innovations. C'est un peu le problème de Gordon. Et cela s'applique particulièrement aussi à mon domaine, celui de l'économie, de la croissance. Mais d'ores et déjà, on perçoit de nouveaux champs d'investigation rendu exploitable par l'accès à de nouvelles bases de données. Ce qui est extraordinaire maintenant, c'est qu'on va pouvoir accéder à des données fiscales individuelles et des données sur les brevets, qu'on va pouvoir regarder, les mettre ensemble et regarder la fiscalité de l'innovation. On va pouvoir regarder la relation entre commerce international et innovation. On va pouvoir regarder, on regarde déjà la relation entre réformes structurelles et politique macro, comment ça influe sur l'innovation. On peut faire beaucoup de choses. On regarde les choses sur la stagnation circulaire. C'est des nouvelles bases de données qui n'étaient pas disponibles jusqu'à récemment. Ça va être un champ passionnant. Et donc, je voudrais me contenter de mentionner un thème qui me paraît particulièrement important. Trois collègues et amis, Michael Kremer, Abhijit Banerjee et Esther Duflo, ont révolutionné l'économie du développement en y introduisant les méthodes de l'analyse expérimentale aléatoire utilisées jusque-là en médecine pour évaluer l'effet de nouveaux médicaments et vaccins. Cela nous a permis de mieux appréhender le comportement des individus et ménages en situation d'extrême pauvreté, et de voir comment ils réagissent à différentes politiques d'aide et d'assistance. Notamment, ils ont fait récemment une évaluation du microcrédit, qui est tout à fait remarquable. Et là, vous avez une leçon inaugurale d'Esther ici, qui vous a expliqué en détail comment elle fait. Donc, c'est des travaux tout à fait fondamentaux qui ont révolutionné le domaine. Cependant, dans sa leçon inaugurale sur pauvreté et développement dans un monde globalisé, François Bourguignon met le doigt sur ce qu'il considérait être, comme François est là, François, tu lèves le deux bras si tu n'es pas d'accord, et si je t'ai mal cité, met le doigt sur ce qu'il considérait être les limites de cette approche. Et je te cite, tu me permets, grâce à cette approche expérimentale, entre parenthèses, on peut espérer identifier avec précision l'impact de la distribution de moustiquaires sur la prévalence de la malaria, d'une hausse des salaires des instituteurs sur leur assiduité. Cette approche est-elle pour autant susceptible de donner à elle seule la clé du décollage économique? On peut en douter. Autrement dit, si les expériences aléatoires permettent d'identifier très clairement l'effet causal de telle ou telle intervention locale, on ne peut ignorer les aspects macroéconomiques et systémiques, ni les effets de réallocation d'un secteur à l'autre, d'une firme à l'autre, d'une région à l'autre, lorsque le but est d'éradiquer la pauvreté au niveau d'un pays tout entier. Pour vous donner une première idée de l'importance de la macroéconomie dans le développement, simplement un chiffre en tête. Le taux de pauvreté, ça c'est des études de Jean Drez et Angus Deaton, qui est mon collègue avec qui je travaille, qui est à Princeton, sur lequel Alexandra Roulet est là, on a travaillé sur Creative Destruction and Subjective Wellbeing, le bien-être et la destruction créatrice. Donc notre collègue Angus Deaton avec Jean Drez, eh bien ils ont réalisé des études sur le taux de pauvreté dans les zones urbaines de l'Inde. Donc, et ils ont montré que la fraction de la population disposant de moins d'un dollar par jour, c'est ça le taux de pauvreté tel qu'ils le définissent, était à 39% en 1987-88 et il est passé à 12% en 99-2000. Il y a eu une réduction radicale de la pauvreté urbaine en Inde, d'accord? Et dans le même temps, Danny Roderick et Subramanian, son co-auteur, ont montré que la croissance s'est mise à décoller. Elle ne dépassait pas 0,8% par an jusqu'au milieu des années 80 en Inde. Elle grimpe à 3,2 dans les années 90. Ce décollage de la croissance en Inde n'est pas tant le résultat d'interventions locales que la conséquence de réformes systémiques. En particulier, Rajiv Gandhi a mis en place une libéralisation du commerce et du marché des biens et services avec la suppression de la license Raj. J'avais fait un papier là-dessus dans l'American Economic Review. S'intéresser aux aspects systémiques et macroéconomiques ne signifie pas, vous voyez, j'ai plus que deux, hein. S'intéresser aux aspects systémiques et macroéconomiques ne signifie nullement qu'il faille ignorer les aspects micro. Et à nouveau, c'est ma théorie de la croissance. C'est une théorie macro, mais qui a des fondements micro. Et on la regarde sur données de firmes. Vous voyez, c'est là, moi, on fait le lien entre la micro et la macro. Et notamment, je voudrais vous montrer deux illustrations de ça. Donc ça, c'est une étude qui a des... Je vais vous montrer deux figures, à nouveau, qui ont été faites par mon copain Pil Klino, avec un co-auteur chinois, mais je ne sais jamais prononcer bien son nom, donc je préfère ne pas le prononcer. Cette courbe est très intéressante. Elle vous montre l'évolution de la taille des firmes avec l'âge des firmes. Vous voyez, aux États-Unis, quand vous êtes une firme, plus vous êtes une firme qui a pris de l'âge, plus vous êtes grande, parce que vous êtes agrandie, en fait. Voyez. Et sinon, vous êtes disparaissez, quoi. Et donc, aux États-Unis, il y a une relation très nettement positive entre l'âge des firmes et la taille des firmes mesurée par l'emploi dans les firmes. Mais en Inde et au Mexique, par exemple, ça continue à croître et puis ça s'arrête, vous voyez. Et c'est très intéressant. Donc la première chose, c'est de dire qu'à un moment donné, en Inde, on augmente la taille et puis on s'arrête d'augmenter la taille, même si on est très bon. Alors qu'aux États-Unis, on continue d'augmenter la taille. Je vais vous montrer une autre figure, qui est la distribution des productivités des firmes. Vous voyez que à droite, je mets le nombre de firmes. Ça veut dire que là, il y a beaucoup de firmes qui ont des productivités à ce niveau-là, très peu à ce niveau-là. Vous voyez qu'en Inde, il y a des firmes qui ont des productivités très très basses. Aux États-Unis, elles n'existent pas parce qu'elles disparaissent tout de suite. Les firmes qui ont une productivité faible, elles sont éliminées immédiatement. Vous voyez ? Donc, ça veut dire qu'il y a un processus de sélection des firmes bien plus efficace aux États-Unis qu'il y a en Inde. Il se trouve que ces deux courbes, ensemble, elles vous racontent une histoire. Et c'est cette histoire qui est importante pour les Blancs. Qu'est-ce qu'elles vous disent, ces deux courbes ? Qu'est-ce qu'elles vous disent ? Eh bien, mises côte à côte, elles racontent l'histoire suivante. Elles suggèrent que c'est l'inaptitude des firmes indiennes, même les plus productives et les plus innovantes, à croître au-delà d'une certaine taille, qui permet à des firmes peu productives de survivre en Inde. Elles ne survivraient pas aux États-Unis. Mais au total, c'est l'innovation agrégée qui est réduite, voyez, puisque des gens très médiocres peuvent rester, les gens très bons ne peuvent pas se développer. Si vous regardez au total, vous avez moins d'innovation et moins de croissance en Inde. Pourquoi aux États-Unis, les firmes continuent à croître et en Inde, pas ? Et là encore, pour expliquer ça, il faut regarder des caractéristiques systémiques de l'économie indienne. Comme l'explique mon ami et co-auteur Ufukaksigi dans des travaux récents, la croissance limitée de la taille des firmes indiennes avec l'âge apparaît liée au fait que la plupart des firmes indiennes demeurent familiales. Pourquoi ? Parce que vous ne faites pas confiance à des managers qui ne sont pas de votre famille. Et pourquoi vous ne faites pas confiance ? C'est intéressant de savoir pourquoi. Alors, et peut-être vous ne pouvez pas les poursuivre. S'ils volent dans l'entreprise, on ne peut pas les poursuivre. Ou on peut pas les... Il y a quelque chose qui fait qu'on veut rester familial. Alors, pourquoi vous voulez rester familial ? Peut-être en partie parce que le faible niveau d'éducation en moyenne et l'insuffisance culture de management qui en résulte est une raison. Il y a des infrastructures défectueuses en Inde et des imperfections de marché du crédit. Tout ça contribue à inhiber la croissance des firmes, même celles qui sont le plus efficaces. Et ça, ça a un impact sur la croissance. Donc oui, vous êtes de partir de la micro, vous êtes au niveau de la firme, mais ça a des implications macro. Et c'est ça la théorie qu'on pousse. Donc, mieux appréhender le processus de croissance des firmes et la réallocation des ressources entre firmes ou entre secteurs d'activité nous donnera certainement de nouvelles clés pour comprendre la relation entre croissance et développement et trouver des remèdes durables au sous-développement et à la pauvreté. Donc c'est à une révolution de la théorie de la croissance et du développement que j'appelle. Conclusion, monsieur l'administrateur, chers amis et collègues, mesdames, messieurs, il reste encore de nombreux chemins à défricher avant de mieux appréhender les énigmes de la croissance, la relation entre croissance et innovation, le rôle des institutions et des politiques économiques dans le processus de développement. Comprendre ces processus fera avancer non seulement la science, mais la société dans son ensemble, car on a moins peur de ce qu'on comprend mieux. Ici, je veux conclure en citant Tocqueville de La démocratie en Amérique. « Je ne puis m'empêcher de craindre que les hommes n'arrivent à ce point de regarder toute théorie nouvelle comme un péril, toute innovation comme un trouble fâcheux, tout progrès social comme un premier pas vers une révolution, et qu'ils refusent entièrement de se mouvoir de peur qu'on ne les entraîne. » Mon espoir est que les enseignements, les séminaires et les recherches organisées dans le cadre de cette chaire contribueront à conjurer cette crainte. Je vous remercie de votre attention.
C'était la leçon inaugurale de Philippe Aguillon, Repenser la croissance économique le 1er octobre 2015 au Collège de France. Le texte de cette leçon est publié chez Fayard en 2016. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, la vidéo et les informations liées à cette diffusion. Un grand merci à notre équipe de réalisation, Olivier Guérin et Thibault Germez. Et un grand merci à la documentation d'actualité de Radio France. Cette émission sera rediffusée dans le cadre des Nuits de France Culture. Demain, Jean-Paul Laumont, la robotique, une récidive d'Héphaïstos. Belle fin de journée à l'écoute de France Culture.